Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru chez Grasset en 2022, Un coup de hache dans la tête est un essai de Raphaël Gaillard, psychiatre et chercheur en neurosciences. Son titre reprend une formule attribuée à Diderot sur les grands artistes et leur supposée singularité mentale. Le livre examine une association ancienne et séduisante, la folie serait-elle la source du génie créateur ? Gaillard aborde cette question depuis une double position. Celle du clinicien confronté à la souffrance psychiatrique à Sainte-Anne et celle du scientifique attentif aux travaux contemporains sur la génétique des troubles psychiques. Son propos ne consiste ni à nier toute proximité entre certaines dispositions mentales et la créativité, ni à consacrer une vision romantique de la maladie. Il cherche plutôt à déplacer le problème. Les troubles déclarés peuvent empêcher de penser, de travailler et de créer. Tandis que des vulnérabilités partagées au sein des familles pourraient être liées à des capacités créatives. Cet essai associe histoire des idées, clinique psychiatrique et réflexion évolutionniste pour éclairer une question humaine autant que médicale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, défaire le mythe romantique qui confond maladie mentale et génie. Le point de départ de Raphaël Gaillard est une représentation culturelle durable depuis la mélancolie antique jusqu'aux artistes romantiques et aux avant-gardes. La création a souvent été présentée comme inséparable de la déraison. Cette image possède une force narrative considérable, car elle transforme la souffrance en signe de profondeur et donne au génie une apparence d'exception presque sacrée. Le livre en montre cependant la limite principale, elle ne correspond pas à ce que rencontre quotidiennement un psychiatre. Un épisode dépressif sévère, une psychose, une angoisse envahissante ou une désorganisation de la pensée ne sont pas des réserves immédiates de puissance artistique. Ils peuvent au contraire altérer la mémoire, la concentration, la continuité du raisonnement et la capacité même de mener une activité jusqu'à son terme. Cette distinction est décisive sur le plan éthique. Admirer des œuvres réalisées par des personnes qui ont souffert ne doit pas conduire à embellir les troubles dont elles étaient atteintes. Gaillard oppose ainsi la fascination rétrospective pour quelques figures célèbres à la réalité ordinaire des patients marqués par la douleur, les pertes relationnelles et les obstacles aux soins. La psychiatrie vise donc à restaurer les conditions de la pensée et de la liberté, non à préserver une maladie au nom de la créativité. Deuxièmement, le lien de parenté entre vulnérabilité psychiatrique et créativité. La contribution centrale de cet essai consiste à reformuler le rapport entre folie et créativité comme un lien de parenté plutôt que comme une relation directe. Gaillard mobilise notamment des recherches génétiques portant sur les risques polygéniques associés à certains troubles psychiatriques. Elle suggère que des personnes apparentées à des patients peuvent présenter plus fréquemment certaines orientations ou activités créatives, sans être elles-mêmes malades. Cette nuance répond à une contradiction apparente. Si la maladie entrave souvent la création et réduit parfois les possibilités de mener une vie stable, pourquoi continuerait-elle à être fréquente dans les populations humaines ? Une part de la réponse pourrait résider dans des variations génétiques qui n'ont pas un seul effet. Selon leur combinaison, leur intensité et leur interaction avec un environnement, elles peuvent contribuer à une vulnérabilité pathologique ou soutenir des formes de pensée originales. Le raisonnement ne permet pas de prédire le destin individuel à partir de gènes, ni de conclure que tout créateur est porteur de troubles. Il écarte aussi toute hiérarchie entre les personnes. Son intérêt est de dissocier la souffrance clinique des dispositions qui peuvent exister dans un entourage familial. La créativité ne devient pas le bénéfice de la maladie, mais l'une des expressions possibles de caractéristiques biologiques et psychologiques partiellement communes. Troisièmement, la clinique rappelle que créer exige des fonctions mentales préservées. Le regard clinique donne au livre son contrepoids concret face aux généralisations sur le génie tourmenté. Créer ne signifie pas seulement produire une idée inattendue. Il faut habituellement maintenir son attention, organiser des matériaux, supporter le doute, mobiliser sa mémoire et revenir de manière suivie vers une tâche. Or, les troubles psychiques peuvent atteindre précisément ces fonctions. La mélancolie peut enfermer une personne dans le ralentissement, la culpabilité ou le désespoir. L'anxiété intense peut paralyser la décision. Les désordres de la pensée peuvent rendre difficile la construction et la communication de ce qui est imaginé. En soulignant ces mécanismes, Gaillard ne réduit pas les individus à leurs symptômes et ne nie pas que certaines œuvres aient été produites dans des contextes de souffrance. Il insiste plutôt sur une évidence souvent oubliée, la maladie n'est pas une méthode de création. Cette perspective modifie aussi la manière de juger le soin. Soulager un patient ne revient pas à supprimer son identité ou son inventivité. Cela peut lui rendre les moyens de penser et d'agir. La question hypothétique de ce que des artistes célèbres auraient accompli avec de meilleurs soins illustre cette inversion. au lieu de faire de la pathologie la condition de l'œuvre, le livre invite à envisager la santé et le soutien comme des conditions plus favorables à une créativité durable. Quatrièmement, une énigme évolutionniste sans justification de la souffrance. Gaillard inscrit son enquête dans une question évolutionniste : comment comprendre la persistance de troubles psychiques qui apparaissent souvent tôt ? Sont associés à une mortalité accrue et peuvent compromettre la vie sociale ou la transmission. Cette interrogation ne reçoit pas dans le livre une solution simpliste. Elle sert à examiner pourquoi des vulnérabilités coûteuses sur le plan individuel ne disparaissent pas nécessairement sous l'effet de la sélection. La piste développée est celle de traits génétiques complexes, distribués dans la population et susceptibles de produire des effets différents selon les personnes et les contextes. Des dispositions favorisant l'exploration mentale, la pensée associative ou certaines compétences originales peuvent ne pas se confondre avec une maladie constituée. Dans certaines configurations, elles pourraient participer à des accomplissements créatifs. Dans d'autres, elles contribueraient à une fragilité psychique. Cette approche oblige à distinguer une explication de type scientifique et une valorisation morale. Dire que la vulnérabilité peut avoir une histoire biologique ne signifie nullement que la souffrance serait utile, souhaitable ou compensée par un talent. Le livre évite ainsi deux impasses : considérer les troubles comme une simple anomalie dépourvue de toute profondeur humaine, ou leur attribuer une fonction positive qui excuserait le manque de soins. La complexité évolutionniste devient ici un argument pour la prudence, non une célébration de la maladie. En dernier lieu, combattre la stigmatisation en renonçant à idéaliser les troubles. La réflexion sur la créativité a une conséquence sociale directe : les récits que les sociétés construisent autour de la folie peuvent à la fois attirer et exclure. La figure du créateur hors norme rend parfois la maladie mentale fascinante pour le public, mais elle ne protège pas les personnes concernées contre la précarité, la solitude, les préjugés ou le retard dans l'accès aux soins. Pire, elle peut banaliser des symptômes graves en les interprétant comme le prix noble de l'originalité. Gaillard défend une position plus exigeante. Reconnaître que les troubles psychiques appartiennent à la condition humaine impose de prendre leur réalité au sérieux, de soutenir la recherche et de lutter contre les mécanismes qui éloignent les personnes des soins et de la participation sociale. Cette position ne demande pas de faire disparaître toute différence mentale au nom de la normalité. Elle refuse plutôt que la différence soit réduite à un spectacle culturel ou à une essence romantique. Le livre invite également à regarder les familles autrement. Elles ne sont pas seulement le lieu de la transmission de risques, mais peuvent porter une diversité de capacités et de trajectoires. En reliant génétique, expérience vécue et solidarité, Gaillard montre que la déstigmatisation passe par un langage précis, ni glorification du trouble, ni réduction de la personne à un diagnostic, mais reconnaissance des besoins réels et des possibilités de chacun. En conclusion, un coup de hache dans la tête intéressera en premier lieu les lecteurs de psychiatrie, de neurosciences et de psychologie qui cherchent un essai accessible sur une question fréquemment simplifiée. Il peut aussi convenir aux professionnels du soin, aux étudiants, aux proches de personnes concernées, et aux lecteurs de littérature ou de culture désireux de réexaminer le mythe du créateur maudit. Son bénéfice intellectuel tient à la clarification de plusieurs niveaux, souvent confondus les symptômes vécus par une personne, les vulnérabilités familiales, les corrélations génétiques et les représentations collectives du génie. Cette séparation aide à discuter de créativité sans faire de diagnostic à distance ni tirer de conclusions abusives sur la valeur de la maladie. Sur le plan pratique, le livre rappelle que le soin, la prévention et la lutte contre la stigmatisation ne menacent pas la singularité créatrice. Ils peuvent au contraire préserver les capacités qui rendent une vie de pensée et de relations possible, par rapport aux ouvrages qui célèbrent mécaniquement les liens entre art et folie. Celui de Gaillard se distingue par le croisement de la clinique et des données scientifiques contemporaines. Il ne remplace pas une étude spécialisée de génétique ou un manuel de psychiatrie, mais il propose une synthèse rigoureuse, nuancée et moralement attentive. Sa force est de conserver la complexité du sujet, une proximité biologique possible ne transforme jamais la souffrance psychiatrique en privilège culturel. Si vous souhaitez soutenir Raphaël Gaillard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.